Il y a 15 jours, notre pasteur nous a dit que la sanctification est là en coup. Vous vous en souvenez, j'espère. En tout cas, je le souhaite parce que c'est important de le savoir. La sanctification en coup. Et je voudrais non pas répéter ce qu'il vous a dit. Ça ne sert à rien. Enfin, ça ne s'est pas dit après tout parce que la répétition est la mère de l'enseignement. Mais je voudrais, si possible, faire un pas de plus avec vous à la suite de ce que je mentionnerai peut-être une ou deux fois, le message d'il y a 15 jours que moi j'ai entendu depuis mon bureau, devant Internet, et là je comprends mieux, évidemment. Alors, vous voyez, ça aussi, un privilège d'habiter loin et d'être obligé de passer par Internet. Bref, croître dans la sanctification, c'était en gros le but de la prédication de notre frère. Elle a un coût à payer. J'ai dit que je ne voulais pas le répéter, mais le reprendre et faire un pas de plus. Et c'est lié à une pensée qui m'est venue à l'époque où j'étais prévu pour prêcher en mars. Ça a été changé après. Et à ce moment-là, pourquoi, je ne sais pas, il m'était venu à l'idée de parler de l'adresse des textes bibliques. En d'autres termes, de la nécessité, quand on lit un texte, de se préoccuper de savoir à qui il est destiné. D'où il vient, mais ça c'est relativement facile d'indiquer, mais surtout de se poser la question de savoir à qui s'adresse l'auteur. Ça peut avoir des conséquences de ne pas le savoir. J'ai quelques exemples à l'esprit et ce sera mon introduction. Si vous êtes comme moi, vous recevez beaucoup de courriers à la fois. Le facteur ne monte pas chaque jour, mais quand il monte, il y en a un fameux paquet. Et si vous me ressemblez, vous prenez le premier couteau qui se trouve sous la main, non pas pour égorger le voisin, j'en ai pas, mais pour ouvrir toutes les lettres. L'une après l'autre, vous ouvrez tout. Et puis vous commencez à sortir l'intérieur et à lier. Je sais pas, peut-être que vous êtes plus malin que moi et que vous faites mieux. Mais moi j'en suis là. Et parfois, il y a une surprise. Vous dites, très cher monsieur, hein, c'est bien, mais qu'est-ce qui se passe? On me réclame de l'argent, qu'est-ce que j'ai fait? C'est que le facteur s'est trompé. Il a mis dans mon courrier une lettre qui ne me concernait pas. Alors, c'est embêtant de découvrir que le très cher monsieur, c'est pas soi. Mais un soulagement de le découvrir quand même quand on lit la suite. Il y a parfois, par contre, des erreurs qui ont une conséquence positive. Et là, je vous cite un exemple. Il est de 1942. Vous voyez que je suis pas jeune. En 1942, quelqu'un qui allait devenir l'un de mes meilleurs amis a reçu en courrier chez ses parents, il avait 15 ans, j'en avais un peu moins, il a reçu une lettre qui ne lui était pas destinée. Mais il a fait comme moi, le gamin, il a ouvert et il a sorti la lettre et il a découvert une invitation pour un camp de jeunes. Il appartenait à une famille juive, encore cachée, mais avec une boîte aux lettres quand même. Bref, et cette invitation pour un camp de jeunes l'a conduit. Il en avait tellement envie. Depuis qu'il était caché et qu'il devait se montrer le moins possible, être avec des jeunes, faire des activités sportives, c'est chic, si je pouvais aller à ce camp. Il y est allé. Il y a trouvé le Seigneur. Nous étions dans la même chambre, ainsi qu'un ami ou d'un autre ami juif qu'il avait amené avec lui. Et ça a représenté finalement 8 personnes sauvées des camps de concentration. Il a été accueilli après être converti et caché par des chrétiens. Bon, l'histoire est rapportée par le jeune homme lui-même dans un livre publié par la Ligue pour la lecture de la Bible sous le titre « L'enfant clandestin ». Mais quelques-uns d'entre vous ont lu ce livre et connaissaient l'histoire. Voilà, ça s'est bien terminé. Une erreur du facteur, mais qui a des conséquences positives. Mais la plupart du temps, les erreurs ont des conséquences plutôt négatives. Ou une lettre qui se perd alors qu'elle est importante, ou autre chose, bref. Est-ce qu'il en est autrement de la Bible? Non. Si nous ne tenons pas compte de l'adresse, nous pouvons être l'objet de conséquences négatives. Et c'est là mes deux exemples. Le premier, c'est la manière dont on lit le livre des Actes. Si l'on oublie qu'il s'agit de l'église judéo-chrétienne, on peut tomber dans la recherche d'une église qui connaît les mêmes miracles extraordinaires et tomber dans la déception ou l'illusion ou le mensonge. Sur un plan peut-être un peu moins négatif, juste deux exemples rapides. Le premier est l'affirmation d'Exode 15 où Dieu dit « Je suis l'Éternel qui te guérit ». Alors on pense à pour soi. Dieu est un Dieu qui me guérit. Et on peut vivre de terribles désillusions quand on découvre que je suis malade depuis longtemps, un des êtres qui me sont chers est malade et Dieu ne guérit pas. Pourquoi? On a oublié de lire ce qui précède. Et ce qui précède, c'est d'abord que Dieu dit ça à des Juifs, à son peuple, et ensuite que ce qui précède le verset 12, je crois, si je ne me trompe, c'est dans le même verset 6, Exode 12, verset 6. Non, c'est pas 12. Pardon, excusez-moi. C'est 15, oui. C'est 15. Verset, ce qui précède, donc verset 6, non, décidément, j'y suis plus, verset 26. Dans ma Bible habituelle, celle que j'emploie habituellement, elle est si vieille qu'elle tient pas debout, je n'ai pas osé l'amener pour vous parler, mais ce n'est pas grave. C'est ceci. C'est Dieu qui parle. Si tu écoutes attentivement la voix de l'Éternel, ton Dieu, si tu fais ce qui est droit à ses yeux, si tu prêtes l'oreille à ses commandements, et si tu observes toutes ses lois, je ne te frapperai d'aucune maladie dont j'ai frappé les Égyptiens, car je suis l'Éternel qui te guérit. On oublie qu'il le dit à des Juifs, d'une part, et on oublie surtout que cette affirmation est liée à un triple « si ». Si tu observes mes commandements, si tu fais tout, si tu observes toute la loi que je te donne. Et nous, puisque nous ne sommes pas juifs, nous croyons que nous ne sommes pas liés par tout ça. Parce que parmi toutes ces choses dont je te dis, si tu les observes, je suis l'Éternel qui te guérit, il y a beaucoup d'exhortations, de précisions de type hygiénique, alimentaire ou corporel, et on fait comme si ça n'existait pas, mais on prend pour soi, je suis l'Éternel qui te guérit. Un exemple. Et un deuxième. Et puis, je le fais rapidement. Le deuxième est tiré du livre de Jérémie. J'ai bien mis des, Oui. Jérémie, chapitre 29, verset 11. Vous avez vu ce verset sur des... Comment est-ce qu'il faut dire ? J'oublie le mot. Des annonces de mariage, ou bien vous l'avez employé dans telle ou telle circonstance. Parce que c'est merveilleux. Je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, projets de paix, non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Vous m'invoquerez et vous partirez, vous me prierez et je vous exaucerai. Les projets que je forme pour vous ne sont pas des projets de malheur, mais des projets un avenir et de l'espérance. Oui. Mais à qui Dieu dit-il ça? À Israël. Et le fait de prendre pour soi, sans discernement, des textes qui concernent Israël, des promesses qui sont faites à Israël, et pas à nous, conduit à la situation théologique actuelle. Tout ce qui est dans l'Ancien Testament est promesse, c'est pour nous. Et tout ce qui est malédiction, c'est pour Israël. C'est le point de départ, dirais-je, en tout cas, un fameux encouragement à la doctrine dite de substitution. L'Église a remplacé Israël. L'introduction était un peu longue, pardon, mais je vais essayer de raccourcir le mieux possible. Pourtant, il est bon d'avoir en tête qu'il est utile de se dire à qui le texte que j'ai sous les yeux, à qui s'adresse-t-il? Élie nous a cité aussi, il y a 15 jours, Philippiens 1, 6. Alors, c'est un texte, à mes yeux aussi, extrêmement important, et je m'y arrêterai plus spécialement aujourd'hui. Tu viens? Il faut lire à partir du verset 3. Je rends grâce à mon Dieu de tout le souvenir que je garde de vous, ne cessant dans toutes mes prières pour vous tous de manifester ma joie au sujet de la part que vous prenez à l'Évangile depuis le premier jour jusqu'à maintenant. Je suis persuadé, voilà le texte que nous rappelait Élie, je suis persuadé que celui qui a commencé en vous cette bonne œuvre la parachèvera jusqu'au jour du Christ Jésus. Donc, je vous ai lu ma version à moi, parce qu'effectivement le texte grec nous permet de voir que ce que dit l'apôtre, c'est « je suis persuadé que celui qui a commencé une œuvre dans votre cœur va la parachever. » Quelle merveilleuse promesse. Attendez un petit peu. Si Dieu nous demandait d'être saints, et on nous l'a rappelé, « Je suis saint, soyez saints car je suis saint », c'était aussi un des textes qu'il y a cité. Tu vois, je l'ai regardé de près ton message, j'ai écouté de près. Si Dieu nous demande cela et nous abandonne à nos capacités, à nos efforts personnels, quelle catastrophe. Ou bien nous nous épuisons sans y aboutir, ou bien nous nous décourageons et nous pensons « c'est pas vrai, c'est pas possible ». Mais on n'a pas lu le texte depuis le verset 3, quand on dit cela. Ceux à qui Paul dit, vous voyez qu'il est bon de connaître l'adresse, ça a des conséquences, ceux à qui Paul dit cela, ce sont ceux, le verset est parti, c'est pas grave, mais ce sont les versets 3 que je vous ai lus et 5, ceux à qui Paul peut dire « Je me réjouis et je rends grâce à Dieu parce que vous avez pris part à l'évangile et que vous continuez à y vivre jusqu'à maintenant. Il dit ça à des gens qui ont pris une part. Et là aussi, il faut aller voir l'original. Il s'agit de ceux qui se sont mis en communion, prendre une part, être en communion dans une même chose. Ils ont pris part à l'évangile, c'est-à-dire quoi? La bonne nouvelle. Et qui est la bonne nouvelle? La personne même de Jésus-Christ. Ce sont donc des chrétiens qui se sont engagés avec le Christ dans une œuvre que le Christ, que Dieu, par le Christ, était en train de commencer. Et qui l'ont jusque-là poursuivi avec persévérance. Ça change les choses. Et c'est en pensant à cela, à la suite de ton message il y a 15 jours, que je me suis posé la question, je me suis dit, mais est-ce que Paul, s'il m'écrivait, ou s'il m'avait écrit, si j'avais vécu de son temps, est-ce qu'il aurait pu me le dire à moi? Je suis persuadé que celui qui a commencé en toi, Richard, cette œuvre formidable, qui est l'œuvre de Dieu, je suis persuadé qu'il la poursuivra, il l'achevera jusqu'au jour du Christ Jésus. Bon, pourquoi pas Jésus-Christ? Parce que j'essaye de respecter les mots tels qu'ils sont dans la Bible, et parce que si c'est le Seigneur Jésus-Christ, si c'est Jésus, si c'est le Christ, si c'est Jésus-Christ ou si c'est le Christ Jésus, ça ne signifie pas la même chose. Enfin, c'est la même personne, mais vu sous un angle différent. Alors même si je ne peux pas me permettre de vous expliquer tout ça maintenant, c'est bon que vous le sachiez. Voilà la différence. Mais cette œuvre commencée chez les Philippiens, parce que eux pouvaient entendre ça, ils pouvaient le lire ou l'entendre de celui qui le lisait pour eux, ce manuscrit qu'ils avaient entre les mains. Ces Philippiens, ils avaient fait du chemin, ils avaient accueilli l'évangile. Ils y étaient entrés, ils se l'étaient approprié de telle sorte que ça devenait une communion, c'est l'original, une communion avec la bonne nouvelle et avec la personne qui représente la bonne nouvelle, parce que l'évangile c'est Jésus-Christ. Jésus-Christ et son programme. Quelle était donc cette bonne nouvelle à laquelle ils s'étaient en quelque sorte inséré pour se l'approprier et pour le vivre. Je vais démolir une pensée qui malheureusement est fréquente. On croit que Dieu nous a sauvés pour que nous soyons sauvés. Est-ce que c'est pas logique, il nous sauve pour nous, pour que nous soyons sauvés. Eh bien non, c'est pas si logique que ça. Si j'entends parler d'un homme qui se construit une maison, et qu'on me dise après, ah mais il n'y a pas du tout l'intention ni de la vendre, ni de l'habiter, il l'a fait pour qu'elle existe. Vous allez prendre ce monsieur pour un farfelu, non? Si maintenant vous me parlez d'un monsieur qui a inventé des outils, mais attention, son seul but c'est qu'on admire cet outil merveilleux qui est capable de faire des choses formidables, mais il veut pas qu'on le vende. Ça doit rester une invention et ne servir à personne. Vous penserez pas qu'il est un peu farfelu? Or, nous pensons souvent que Dieu nous a sauvés pour que nous soyons sauvés, point, c'est tout. Et dans les faits, on prie longtemps pour le salut de quelqu'un, et un jour on apprend, ça y est, il a accepté le salut. Oh bon, fini, on prie plus, ça y est, il est sauvé. Il faut démolir et abandonner complètement, si c'est notre cas, l'idée que Dieu nous a sauvés pour que nous soyons sauvés. Parce que quand il nous a sauvés, c'était pour bien plus que cela. Et l'image la plus courante, c'est la mère qui met au monde un bébé. Je dis la mère, elle le devient en le mettant, si c'est le premier. Et qui pense, ben voilà, ça y est, mon bébé est né. Maintenant qu'il se débrouille, moi, tout ce que je voulais, c'est mettre au monde un enfant. Il est au monde, c'est terminé. C'est comme si nous imaginions que Dieu peut se contenter de mettre au monde un bébé vagissant et qu'il faut langer 3 ou 4 fois par jour pour l'éternité. D'abord, il a autre chose à faire, mais ça, c'est une boutade. Dieu ne nous met pas au monde pour que nous soyons des bébés. Il nous met au monde pour que nous devenions des hommes, des adultes. C'est ça la bonne œuvre que Dieu a commencée dans le cœur des Philippiens. Et donc, Paul disait, il l'achevera jusqu'au jour du Christ Jésus. Si nous avons oublié que la sanctification, ce n'est pas seulement vivre de mieux en mieux en évitant le péché, et que ce n'est que ça, nous nous trompons. Le but de la sanctification, c'est de nous conduire à la position d'homme fait, d'adulte. Ce que Dieu veut faire quand il nous met au monde à travers la nouvelle naissance, la naissance d'en haut, ce sont de futurs adultes et qui vont le devenir. Et on s'aperçoit très vite, quand on lit la Bible, que en dehors de cette vision de Dieu pour ses créatures, nous ne pouvons trouver que le désordre ou la déception ou l'incompréhension. Le problème est, dans le livre La croissance, l'écrit de la croissance, je dis quelque part, vous ne pouvez pas vous dire à quelle page, évidemment, que nos églises ressemblent plus souvent à des pouponnières, à des écoles maternelle, à la rigueur, à des écoles primaires, des sections primaires, qu'à des collèges, des universités en particulier, qu'à des lycées ou à des universités. On en est toujours à répéter les mêmes choses, à donner du lait. Je ne dis pas du tout que ce sont les responsables, que les pasteurs sont responsables. Mais je dis que, bien souvent, c'est ce qui se passe. Pourquoi ? L'apôtre Paul nous en donne la raison. Si nos églises sont souvent des pouponnières, attendez, je croyais que j'avais mis un ciné à la bonne page, mais il a dû tomber. Mais c'est pas loin. C'est Hébreux, chapitre 5. Quand on s'y signe qu'on n'y tombe pas tout de suite. Le verset 11. L'apôtre Paul dit, bon, je dis l'apôtre Paul, nous ne pouvons pas en être absolument sûrs, mais personnellement, je suis pratiquement convaincu que c'est Paul qui a écrit le livre des Hébreux. Et il me semble qu'il y a beaucoup de bonnes raisons. Nous avons beaucoup à dire là-dessus et des choses difficiles à expliquer. Pourquoi ? Pourtant, Paul aurait pu en dire plus. Non, je n'ai pas pu. Pourquoi ? Parce que vous êtes devenus, et second dit, long à comprendre. Mais le texte original dit « parce que vous êtes devenus paresseux d'oreilles ». Littéralement, c'est ça, paresseux d'oreilles. On ne peut pas donner de la nourriture à quelqu'un qui n'en veut pas. Vous connaissez l'adage « on ne peut pas donner de l'eau à un âne qui n'a pas soif ». Ben, j'en sais quelque chose, quand l'âne ne veut pas, il veut pas. Même si je suis persuadé qu'il a tort, il n'en fait qu'à sa tête. C'est la même chose pour les humains. Ah, lire la Bible, j'ai pas le temps, et puis moi, ça, j'aime pas lire. Alors, vous regardez des images qui n'ont ni queue ni tête, les unes après les autres, ça va bien, mais comme disait en venant à notre frère Lewis qui me conduisait, on a appris à n'avoir plus de logique parce qu'il n'y a pas de suite, parce qu'il n'y a pas de lien, mais c'est comme ça qu'on vit. Paf, 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 une autre image, une autre chose, plus il y en a, mieux ça vaut, et mieux ça vaut, plus on est bête. C'est inévitable. Bref, ceux auxquels écrivait l'apôtre Paul, si je ne me trompe, étaient devenus paresseux d'oreilles. Parce que l'enseignement se faisait surtout oralement à l'époque. Maintenant, on dirait peut-être parce qu'ils sont devenus paresseux des yeux. Et encore, il faudrait préciser, pour la lecture. J'ai entendu dire combien de fois, mais les chrétiens ne lisent plus. Pourquoi? Parce qu'on ne veut pas faire un effort, et que pour lire, il y a un petit effort, c'est pas beaucoup, mais il faut quand même faire un petit effort. D'abord, il faut aller chercher la Bible sur l'étagère, et puis il faut prendre où est-ce que j'en étais, où est-ce que je me suis arrêté, le retrouver, bref, il y a un effort à faire. Il y a 15 jours, l'hebdo du journal La Croix, que j'ai reçu pendant quelques jours comme promotion, mais c'était bien tombé, j'en ai profité, consacrait 12 pages, avec pas tellement d'illustrations, sous le titre « Les gens ne veulent plus bosser ». Peut-être il y en a l'occasion de voir. C'est ce qui sort le samedi et le dimanche. L'hebdo de La Croix. 12 pages sur les gens ne veulent plus bosser. Et ce n'était pas pour dire c'est faux. C'est pour montrer que c'est vrai dans tous les domaines. Il n'y a plus personne qui veut bosser. C'est que gérer. Non, mais c'est la tendance générale. On ne peut faire d'efforts. Je me suis demandé s'il fallait pas écrire un article pour la revue Le Christianisme aujourd'hui avec ce titre « Les chrétiens ne lisent plus la Bible ». Ils veulent plus. Il faudrait peut-être dire « ne veulent plus lire ». Entre parenthèses, sous-entendu la Bible. Or, comment voulez-vous connaître le programme que Dieu a pour nous? Comment voulez-vous comprendre ce que c'est cette bonne œuvre que le Seigneur a commencée dans nos cœurs? Parce que vous êtes là ce matin, donc en tout cas, Paul aurait pu vous écrire « Le Seigneur a commencé en vous cette bonne œuvre ». La question est de savoir, est-ce qu'il aurait pu ajouter, et je suis persuadé qu'il a perdu, qu'il ne la parachevera. Tout ça ne dépend pas de lui. Tout ça dépend de nous. Paul écrit qu'on ne pouvait pas leur donner plus. Je reviens à ce texte hébreu pour le lire jusqu'au bout. Faut pas que je me trompe l'endroit. C'est moi quelque dans ma Bible à moi. Vous, en effet, qui depuis longtemps devriez être des maîtres, vous avez encore besoin qu'on vous enseigne les principes élémentaires. Ce n'est pas facile à traduire le terme, mais il s'agit bien de ce qui est élémentaire. Ce qui est élémentaire des oracles de Dieu. Donc la Bible, j'en ai devenu à avoir besoin de lait et non d'une nourriture solide. Or, quiconque en est au lait n'a pas l'expérience de la parole de justice, car il est un enfant. Et la nourriture solide est pour les hommes faits, pour ceux dont le jugement a été exercé par l'usage à discerner ce qui est bien, ce qui est mal. Exercé par l'usage. Coup d'œil dans l'original. Le premier mot est le verbe. Attendez, je ne vais pas vous le dire de travers, mais c'est le verbe gymnasco. Non, attendez. Il y a un petit doute dans ma tête et je crois que je me suis trompé de page. J'en ai que deux. J'ai une chance sur deux de me tromper. Voilà, c'est gymnasto, pas facile à prononcer. C'est le mot, le verbe grec qui a donné le mot gymnastique. Et l'usage, c'est le verbe eris en grec, qui est la pratique. Il est donc question des aînés, des adultes, à qui on peut donner la nourriture solide, parce qu'ils ont été exercés, enfin, ils ont fait une pratique régulière de la gymnastique. Enfin, je tourne un peu autour du pot, mais c'est ça. La nourriture solide est pour ceux qui pratiquent la gymnastique. Il est question de la foi, il est question de l'évangile. Les Hébreux n'en étaient pas là. Les Philippiens, oui. Pas les Hébreux auxquels écrit l'apôtre. Mais eux, on ne pouvait pas leur donner la nourriture solide parce qu'ils ne savaient rien de la gymnastique. Pratiquer la gymnastique. La gymnastique, ok, mais pas trop, s'il vous plaît, c'est embêtant. Puis, ça finit par être fatigué quand vous faites, vous savez, là, comment est-ce qu'on appelle ça? Aller toucher les pointes de des souliers, enfin des souliers ou des pieds, si vous voulez, pour faire la gymnastique, ça finit par être fatigant, comme le boulot. Pas drôle. Désolé. Mais on ne peut pas donner de la nourriture solide à ceux qui ne veulent pas faire de gymnastique. Alors, il y en a beaucoup parmi nous qui pratiquent la gymnastique. Ne répondez pas. Je ne veux pas le savoir. Moi, je fais celle qui est obligatoire. Ce qui est obligatoire, ben, c'est de monter au bureau, l'escalier raide, 15 fois, 20 fois dans la journée. Ou aller, la lame, ou bâtiment en bas, je bouge. Mais c'est parce que c'est obligatoire. Je fais pas beaucoup de gymnastique spontanée. Un petit peu, disons, mais pas beaucoup. Spirituellement, c'est dramatique de ne pas vouloir faire la gymnastique. Parce que du coup, on en est toujours au petit lait ou au lait, si tout va bien, et pas plus. Or, ce n'est pas ça que Dieu veut pour nous. Il ne nous a pas créés pour nous biberonner pendant toute notre existence. Il veut faire de nous des hommes. Alors, très rapidement, j'ai un peu perdu le fil de mes notes, mais c'est pas grave, sauf que il faut que je cherche un peu plus, mais c'est pas grave. À ces gens-là, dont Paul vient de dire sa déception, J'ai beaucoup de choses à vous dire. Je ne peux pas. Vous êtes paresseux d'oreille. Vous ne voulez pas entendre. Ça vous fatigue. À cela, il apporte une exhortation. Changez. Sortez de là. Ne persévérez pas dans cette voie-là. Chapitre 6, verset 1er. C'est pourquoi, parce que la nourriture solide est pour les hommes faibles, laissons les éléments de la parole du Christ, tendons à ce qui est parfait, sans poser de nouveau le fondement du renoncement aux œuvres mortes, de la foi en Dieu, la doctrine des baptêmes, l'imposition des mains, de la résurrection des morts et du jugement éternel. Et là, c'est ce que nous ferons, Dieu voulant, si Dieu le permet. Laissez derrière vous. Le texte n'est pas négligé ou considéré comme nul ou sans importance. Non, mais dépassez les enseignements élémentaires du Christ. Ah ! Qu'est-ce que je veux dire ? Enseignements du Christ élémentaires ? Eh bien oui, il a d'abord été élémentaire. Et il ne m'aurait pas contredit, puisque au chapitre 16 de l'Évangile selon Jean, je ne sais plus quel verset, mais peu importe, je crois que c'est le verset 11, mais je ne suis pas sûr, il dit, j'ai encore beaucoup de choses à vous dire, mais vous ne pouvez pas les porter maintenant. Ah, il y a aussi une note d'espoir. Paul disait, j'ai pas pu vous dire, vous êtes devenus paresseux d'oreille. Jésus dit, j'ai beaucoup de choses encore, beaucoup d'autres à vous dire, mais vous ne pouvez pas les porter maintenant. Ce qui veut dire qu'il y a un espoir, au moins pour les apôtres. Car il va leur dire, dans le même chapitre, un petit peu plus loin, c'est pas loin, l'Esprit vous conduira dans toute la vérité. Alors, le message de Jésus, c'était pas la vérité. Si, mais c'était la vérité élémentaire. Et ce, quand on arrive à l'université, on ne vous redit pas les choses élémentaires. Si, mais d'une toute autre manière, c'est devenu très différent. Et pourtant, le fondement, jamais un professeur d'université dira « Attendez, on vous a appris qu'un et un font deux et que deux font quatre, mais ça, c'est pas vrai. Écoutez-moi, il faut abandonner, ça, c'est pas vrai. » Non, il vous le dira pas parce que vous le savez, c'est fondamental. Il fallait passer par là. L'enseignement de Jésus-Christ pendant son ministère terrestre était un enseignement élémentaire. Qu'est-ce qu'il enseignait ? Le royaume de Dieu est proche. Repentez-vous. Autrement dit, confessez vos péchés et mettez votre foi en Jésus-Christ, en moi, disait-il. Et vous aurez la promesse de participer au règne millénial quand le David final se manifestera. Je ne le dis pas comme lui, pas tout à fait avec les mêmes mots, mais ça, c'était le message élémentaire de Jésus-Christ. J'ai beaucoup de choses à vous dire, mais vous ne pouvez pas maintenant. C'était pas leur faute à eux. C'était pas leur paresse. C'est que c'était pas encore le moment. Mais vous allez recevoir le Saint-Esprit. Je vous laisserai pas orphelin. Je viendrai. Et moi qui suis avec vous, je serai en vous, c'est-à-dire en tant qu'esprit, et je vous conduirai dans toute la vérité. Et c'est à cause de cette promesse faite aux apôtres, pas à tous les chrétiens de la planète, aux apôtres, dans toute la vérité, que l'on considère les écrits apostoliques comme inspirés. Il n'y a pas de problème. Eux sont le fruit de l'inspiration divine. Donc, nous pouvons nous y fier entièrement. Et ils sont venus, les apôtres. Effectivement, surtout à travers l'apôtre Paul, on a dépassé l'enseignement élémentaire. On, qui, la révélation. Pour nous, la question est de savoir, est-ce que moi je l'ai dépassé? Est-ce que j'ai suivi la révélation? Et en effet, tout le programme de Dieu, faire de nous des hommes, passe à travers trois, je crois que je peux le dire comme ça, trois actes de foi qui nous sont demandés. Le premier, c'est que Jésus est mort pour moi. Vous savez, croire que Jésus est mort pour tous les hommes, il y a beaucoup de gens qui le croient. Jésus, oui, il est mort pour tous les hommes. Mais tant qu'ils n'ont pas fait de cela une appropriation personnelle, il est mort pour moi, ils sont encore perdus. C'est le premier acte de foi. Jésus est mort pour mes péchés, pour m'en délivrer. Il est mort pour moi. Mais ce n'est pas tout. Si je lis maintenant, après les évangiles, les épîtres, je vais découvrir, par exemple, en Romains 6, que non seulement il est mort pour moi, mais qu'il est mort pour que, en m'identifiant à lui, dans sa mort, je sois à mon tour mort au péché. Et Romains 6 le dit clairement, dès que je peux dire, et c'est le deuxième acte de foi avec Paul en Galates 2:20, j'ai été crucifié avec le Christ, et si je vis maintenant, je vis dans la foi au Fils de Dieu. Quand je peux faire cette nouvel acte de foi, voici que j'entre dans la sphère de la justification. J'avais le pardon de mes péchés en croyant que c'était mort pour moi. En me considérant et en le vivant autant que je le peux dans ma vie de tous les jours, j'ai été crucifié avec le Christ. J'entre dans la sphère de la justification. Parce que c'est ça que Dieu avait contre moi. Le salaire du péché, c'est la mort. Mais maintenant, en Jésus-Christ, je suis mort avec lui. Je suis en règle avec la loi. Je suis justifié. Et voilà que, dépassant Romains et Galates, j'arrive à lire Éphésiens. On a encore pour un petit temps, mais c'est pas tout bien. J'arrive bientôt à la conclusion. Parce que je n'ai pas regardé l'heure jusqu'ici, je n'y ai pas pensé. Ça m'arrive souvent, mais ici, rarement. C'est rare que je ne regarde pas l'heure qu'il est. Mais le pasteur nous habitue à des sermons qui sont quand même solides et qui durent. Donc, il ne va pas m'en vouloir et veut non plus. J'espère. Bref, je découvre, en tombant dans Éphésiens, que ceux qui se sont regardés comme morts avec le Christ sont aussi rendus à la vie, ressuscités et assis avec le Christ dans les lieux célestes. Fantastique. Merveilleux. C'est plus le cours élémentaire. Et pourtant, c'est à la portée de tous ceux qui veulent l'entendre et le comprendre. Je ne suis pas seulement le bénéficiaire du pardon de mes péchés, je ne suis pas seulement justifié parce que me reconnaissant comme mort avec le Christ, crucifié avec lui, mais voilà qu'avec lui, avec le Christ, je suis rendu à la vie, ressuscité, et assis dans les cieux, à la droite. Oui, mais l'adresse. À qui Paul disait ça? Eh bien là, il y a un drame, un petit drame. Mais je crois que c'est quand même un petit drame, c'est quand même un drame. Éphésiens 2, où j'ai trouvé cette affirmation, au verset 6, bien entendu, dit à qui? Dit qui est rendu à la vie, ressuscité et assis avec le Christ dans les cieux, mais pas dans nos versions, c'est ça le sens. Aucune version n'a respecté ce que dit le premier verset. On a tous, toutes les versions, je ne dis pas tout le monde, je parle des versions, et je ne sais pas ce qu'il en est des versions en malgache, en cambodgien, ça s'ignore. Mais les versions françaises, aucune n'a respecté un participe présent. Le premier verset dit « Vous qui êtes maintenant morts aux péchés et aux offenses dans lesquelles vous viviez autrefois. » Voilà ceux qui sont rendus à la vie, ressuscités et assis dans les cieux. Paul ne dit pas « Vous qui étiez morts dans les péchés, dans les offenses, il vous a rendu à la vie. » Mais il dit « Vous qui êtes maintenant morts aux offenses et aux péchés dans lesquels vous étiez autrefois. Vous qui êtes morts, il vous a fait le reste. Il a fait le reste du travail. » Tant que nous n'avons pas compris que nous sommes crucifiés avec le Christ et que nous n'avons pas mis notre comportement en accord avec cette position en Jésus-Christ, nous ne pouvons pas profiter du reste. On ne ressuscite pas un vivant. Ceux auxquels Paul s'adresse et dit « Vous avez été ressuscités », c'est ceux auxquels il peut dire « Vous qui maintenant êtes morts au passé ». Vous qui avez fait l'expérience de Romains 6, eh bien, parce que Dieu parachève son travail, il vous a aussi sorti du tombeau, rendu à la vie, ressuscité et asseoir avec lui dans les cieux. C'est pas rien de respecter l'adresse. Maintenant, quand les versions sabotent l'adresse, c'est un peu grave, vous m'avez compris. Mais vous l'avez entendu, et je pense que ça, vous vous en souviendrez. Le verset dit, vous qui maintenant êtes, participe présent, êtes dans la situation, et ça dure. C'est pas un fait, c'est pas vous avez été, vous êtes mort aux offenses dans lesquelles vous vivez autrefois. Dieu vous a rendu à la vie, ressuscité, ainsi dans les cieux. Alors, je voudrais poser ma dernière question, et voilà, je m'arrête dans un petit moment. Est-ce que Paul pourrait le dire de moi? Toi, qui es maintenant mort aux offenses et aux péchés dans lesquels tu vivais autrefois, le Christ t'a rendu la vie, t'a ressuscité et t'a fait asseoir dans les cieux. Attention, il ne peut le dire que si nous nous sommes reconnus comme morts avec Jésus-Christ. Et si notre vie vit dans la perspective qui était celle des Philippiens, et que d'ailleurs, je l'ai oublié, mais il n'est pas trop tard, ces Philippiens qui avaient part, qui entrent en communion avec l'Évangile et avec Jésus-Christ, cette attitude que le Christ, au verset 29, je crois, du même chapitre 1 de Philippiens, exprime par ces mots, pour moi, vivre, c'est Christ. Mourir, en cas. Littéralement, c'est ça. Pour moi, vivre, c'est Christ. Et c'est moi qui ajoute le c'est parce qu'en français, ça manquerait. Mais en grec, c'est pour moi, vivre, Christ. Mourir, en cas. Ça, c'est le texte tel qu'il est dans l'original. À ceux qui peuvent vivre cela, alors Paul peut dire, depuis les siècles après sa mort, vous avez aussi été rendu à la vie, ressuscité et ainsi que le Christ dans les lieux célestes. Mon vœu, bien sûr, c'est que nous tous, sans exception, nous puissions maintenant rendre témoignage par un acte de foi, je crois que ça, il faut quand même que je l'ajoute, même si ça ne vaut pas encore une ou deux minutes maximum, un acte de foi qui est pratique. Facile de prendre l'acte de foi de Paul, j'ai été crucifié, et de le prendre à compte. Alors, pour ce qui est d'être assis dans les cieux, d'être ressuscité, il n'y a pas de texte biblique que je peux reprendre. Mais il y a une exhortation qui l'exprime, et ce sont mes derniers mots, en Colossiens, chapitre 3, verset 1er, jusqu'au verset 3. Si donc vous êtes ressuscité avec Christ, si c'est vrai, cherchez les choses d'en haut où Christ est assis à la droite de Dieu. Attachez-vous aux choses d'en haut et non à celles qui sont sur la terre. Car vous êtes mort et votre vie est cachée avec le Christ en Dieu. Donc votre vie paraîtra. Vous paraîtrez aussi avec lui dans la gloire. Si vous êtes ressuscité, si c'est vrai, alors cherchez les choses d'en haut et non celles qui sont sur la terre. Le troisième acte de foi, c'est détourner mon regard des choses passagères pour tourner mon regard et ma vision et mon désir et ma perspective vers les choses invisibles, vers les choses d'en haut. Que Dieu le fasse pour chacun de nous. Seigneur, donne-nous non seulement de le comprendre, mais surtout, par ta grâce, de le vivre de façon pratique, afin que d'autres soient entraînés avec le même désir de te plaire et d'être des hommes faits comme tu le souhaites, ce pourquoi tu nous as créés. Sois-en béni parce que tu le veux. Et tu t'attends à ce que nous le voulions avec la même persévérance et la même foi.